Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce premier jour de départ en vacances et pour la dernière émission de la saison, un sujet de circonstance, la plage.
La première chose qu'on a faite, on est allé à la plage. On s'est échangé, on est allé à la plage.
C'est vrai que la mer, ça fait du bien, c'est tonifiant, c'est bénéfique pour la santé. Et puis c'est les vacances, quoi. Les vacances, c'est ça. Hein.
Là, c'est
toujours
dans la mer.
Oui, c'est le bon.
Ans d'histoire. On a beau encourager le tourisme vert, les séjours à la montagne ou les voyages culturels, rien n'y fait. Pour la moitié des Français, partir en vacances aujourd'hui, c'est d'abord partir à la plage. Mais avant d'être envahi par le tourisme de masse, la plage est longtemps restée déserte. Parcourue d'abord par quelques rares touristes qui osaient à peine mettre le pied dans l'eau, recommandé par les médecins pour les vertus thérapeutiques des bains de mer, mais déconseillé par quelques grincheux qui craignaient qu'elle devienne un lieu de débauche, la plage a mis du temps à devenir la destination préférée des vacanciers qui, tous les ans, à la même date, envahissent aujourd'hui les côtes de France et perturbent sans vergogne la tranquillité des indigènes et des gendarmes d'un des villages les plus célèbres du monde.
À bon !
Messieurs, leur hache est arrivée. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, c'est le début des grandes vacances. Le rush des vacanciers a commencé ce matin depuis minuit. Maintenant, ils viennent jusque dans nos bras écraser nos fils et nos compagnes.
Ces bateaux, c'est merveilleux. Oh, est-ce que je suis contente.
Attention, attention, tiens-toi, pas la bécane. Un accident. Ça y est, à Tahiti, ça recommence.
Quoi?
Qu'est-ce qui recommence? Les nudistes, tous à poil. Passez-moi l'expression, mon adjudant.
Les nudistes, cruchot, sur les oreilles. Il y a trop longtemps qu'ils me narquent. Rassemblez tout le monde. Allez!
Jean-Didier Urbain, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme pour les célèbres gendarmes de Saint-Tropez, c'est aujourd'hui le 1er juillet, jour de départ en vacances, à la campagne, à la montagne, mais surtout à la plage. Vous le rappelez dans un livre, la plage reste la destination préférée des touristes, pardon, des villégiateurs. Parce que vous, dans votre livre, vous dites que ceux qui vont à la plage sont des villégiateurs. Quelle différence avec les touristes?
Ah bah, elle est radicale, c'est-à-dire qu'un touriste, c'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, fait un tour, circule, découvre, explore. Le villégiateur, c'est quelqu'un qui se transplante. Au fond, c'est quelqu'un qui voyage pour ne pas voyager et pour oublier le monde, qui s'installe dans une retraite. Au départ, c'était le terme vient de l'italien, c'est se retirer en ses terres, en fait. Hein. Bah, ma foi, le plageur d'aujourd'hui se retire sur sa plage, mais comme dans un désert, c'est une foule solitaire que la foule de la plage et qui très symboliquement d'ailleurs tourne le dos au monde et regarde le vide. On est là pour oublier le monde et absolument pas pour le découvrir. Donc c'est vraiment pas une population de touristes.
Alors justement, on l'oublie aujourd'hui, mais il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, les plages de France et d'ailleurs étaient totalement désertes. Qu'est-ce qui fait que on n'allait pas à la plage au 19e siècle, par exemple?
Bah écoutez, c'est Fernand Braudel qui a déjà bien exprimé les choses. C'est peut-être propre à la culture française, mais pas forcément. Il y a toujours eu une peur de la mer. Une peur de la mer. Ne pas oublier que les grands navigateurs étaient de piètres baigneurs, enfin. Et que c'était vraiment le lieu de tous les monstres, de toutes les abîmes, de toutes les terreurs, de l'inconnu total.
Et ce que vous appelez la balnéophobie.
Oui, c'est la balnéophobie. C'est-à-dire que croire que historiquement on s'est jeté spontanément dans les flots, c'est une illusion.
Puis il n'y avait pas aussi les congés payés, la plage était loin.
On ne savait pas nager.
On ne savait pas nager. Alors cela dit, il y avait quand même des gens qui y allaient. Et ils y allaient pour admirer le paysage, pour le
peindre parfois, pour écrire dessus. Vous citez beaucoup d'écrivains du 19e siècle qui sont intéressés, ou pour admirer, ou pour prendre contact avec les populations indigènes, c'est-à-dire les pêcheurs.
Oui, c'est ça. La première relation littorale, ça a été une relation, je dirais, quasi ethnologique, parce que c'était au fond la partie du territoire la moins connue avec la montagne. Dernier refuge, je dirais, des sauvages encore existants sur le territoire. Quand on voit, par exemple, Flaubert, son voyage en Bretagne avec Maxime Ducamp, découvre la Bretagne comme un bout du monde. D'ailleurs, c'est le Finistère, là où finit la terre, et il a vraiment l'impression d'être aussi loin que quand il va en Égypte, en fait. Hein. C'est un monde, effectivement, socialement défavorisé, sanitairement... pauvre, dégénéré, comme il le dit lui-même, et il découvre cela véritablement, c'est comme s'il était au cœur de l'Afrique. Hein.
Et alors on commence, au 19e siècle, à mettre quand même courageusement le pied dans l'eau, même si elle est froide, sans plaisir, et avec des vêtements qui conviennent, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, au 19e siècle, l'intellectuel français semble tourner le dos à la plage. Hein. On peut même parler de répulsion dans le cas de Michelet. Aux premières visites que l'on fait à la plage, dit-il, l'impression est peu favorable. C'est monotone, c'est sauvage, aride. Donc pour Michelet, bien sûr, pas question de se baigner. Quiconque, dit-il, voit sortir de l'eau la pauvre créature qui prend un de ses premiers bains, qui la voit pâle, hâve, effrayante, avec un frisson mortel, sans la dureté d'un tel essai, et tout ce qu'il y a de danger pour certaines constitutions. Alors, la mer serait-elle mauvaise pour la santé? À la même époque, pourtant, certains médecins préconisent la baignade, non, bien sûr, pour le plaisir qu'il peut procurer, mais pour les vertus de l'eau froide de la mer. Par exemple, précise un manuel d'hygiène du 19e, chez les individus qui prennent un bain sans autre besoin que le caprice, ils relâchent les parties qui ne devraient pas l'être et leur fait perdre leur tonicité. Le docteur Constantin James, un nom qui ne s'invente pas, met en garde aussi contre l'abus du bain de mer, car le baigneur, dit-il, pourrait facilement se laisser entraîner au charme d'un pareil exercice. Alors, des idées qui ont la vie dure, en 1929 encore, le Larousse médical illustré écrit « Règles à suivre pendant le bain. Le costume doit être en laine, ça doit être agréable, assez large pour ne pas gêner les mouvements de la nage. Les femmes couvriront leur tête d'un bonnet imperméable. Et pour entrer dans l'eau, même si elle est froide, c'est la méthode à la dure, hâter de s'y plonger tout entier et rester complètement immergé. Et la violence est préconisée pour les récalcitrants. Les seaux d'eau de mer versés sur la tête sont une bonne pratique chez les personnes qui ne savent pas nager. » En malgré toutes ces mises en garde, les foules se pressent de plus en plus nombreuses sur les plages, ce qui leur vaut le mépris de quelques écrivains. Le pire est sans doute Goncourt, qui écrit en 1864 à Trouville « La maternité s'y étale, une sorte de maternité animale et poussinière. On sent que les bains de mer sont je ne sais quel lieu dégoûtant où on mène sa femme pullulée. » Et Goncourt ajoute, comme si ça ne suffisait pas, « La mer, c'est un peu le seau d'eau au cul des juments. » Alors, misogynie donc pour certains, mépris social aussi pour d'autres, comme Léoto. Voilà ce qu'il écrit en 1923, des gens qui vont à la plage. Ils circulent à moitié nus, laids, leurs compagnes, mastoc, le corps abîmé, la peau cuite. Alors, qui sont-ils? Des commis, bien sûr, des employés, des commerçants enrichis. La bêtise, la vulgarité, dit Léoto, sont là dans leur plein. Il faut les voir plantés à l'extrémité du môle, contemplant sous leur visière l'horizon de la mer. C'est gentil, hein. En plus sympathique, il arrive que Michelet, le pudibond, se laisse soudain séduire par la sensualité de la baigneuse. Vénus, dit-il, qui jadis sortit de la mer, en renaît encore tous les jours, non pas la Vénus énervée, la pleureuse, la mélancolique, mais la vraie Vénus, victorieuse dans la puissance triomphale du désir. C'est par cette belle image de femme que je terminerai ce numéro de revuiste.
Alors, on le voit bien dans ces premiers textes, des premières baignades, Jean-Didier Urbain, c'est entre autres, il y a bien beaucoup de choses là-dedans, mais entre autres, c'est moins finalement pour le plaisir que pour sa santé qu'on se baigne.
Ah oui, absolument. Ce qui a rendu la plage sociable, je dirais, c'est parce qu'elle avait des valeurs curatives, réelles et imaginaires aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il fut un temps où la plage guérissait de tous les maux, donc énervait les apathiques et calmait les énervés. Enfin, on allait aussi à la mer contre ce mot terrible qui était la masturbation.
C'est pour ça qu'on commandait l'eau froide, hein,
Et d'ailleurs, ce rapport
à la mer du Nord plutôt que la Méditerranée.
Rapport très violent qu'évoque Michelet, d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a un rapport de flagellation. On va pas à la mer pour se faire plaisir, mais vraiment pour se faire punir, si je puis dire. Et au sortir de ce punir-là, eh ben, on sera peut-être guéri du mal, le moral ou physique qui nous travaille.
Alors, ce cela dit, on y va chaudement vêtu, hein, on l'a entendu aussi. Hein, c'est pas les monokinis ou les bikinis du 20e siècle. Et puis alors, cela dit, il y a quand même, il y a aussi les intercesseurs qui permettent. Parce que si on n'allait pas se baigner, c'est parce qu'on savait pas nager. Et il y a le maître nageur qui était en quelque sorte l'intercesseur entre l'homme et les éléments. Alors cela dit, on est resté très peu nombreux à se baigner pendant longtemps, jusqu'à ce qu'en 1936, les congés payés rendent la plage accessible à tout le monde.
Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis. Les vacances payées, accordées par notre gouvernement, ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
Partir pour la Côte d'Azur, aller vers le ciel mûr. Partir, quitter la teigne et ses brouillards, le spleen et le cafard. Partir, les yeux éblouis de lumière, devant l'horizon qui s'éclaire, frémir d'espoir et de désir, d'ivresse et de plaisir. Partir.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la plage.
Et c'était Robert Burnier, Partir pour la Côte d'Azur, une chanson des années 30, les premières années des congés payés qui ont permis à des millions de Français de voir la mer pour la première fois. D'ailleurs, ce qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, hein, il y en a certains qui parlaient de ces salopards en casquette qui venaient envahir des plages réservées jusque-là à quelques privilégiés, hein, Jean-Didier Urbain.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la plage a été un petit peu ce laboratoire de mélange des classes sociales.
Et ça se mélange 36... pas trop, vous rappelez que
ça se mélange pas trop, non,
chacun va sur sa plage.
Oui, tout à fait. Ouais. Et même effectivement au 19e siècle, on séparait même les plages en fonction des sexes. Il y avait la plage pour femmes, la plage pour hommes, la plage pour couples. Et c'est vrai qu'après il y a eu une discrimination sociale. Et aujourd'hui encore, il faut pas, même si ce n'est pas explicite, on sait très bien quelles sont les plages prolétaires, quelles sont les plages aristocrates, quelles sont les plages middle class. Tout ça est quand même toujours dans les faits existe. Hein. Bon, ce qui est vrai, ce qu'on a entendu dans cette chanson, c'est ce rêve au fond de retour à un état natif, hein, qu'a éveillé la plage, où les enfants sont libres, les parents sont libres, rajeunissent, où on est tous nus, il y a une situation un petit peu d'Éden, adamique, comme ça, où chacun retrouve une situation plutôt de rôle, c'est plus la fonction, c'est le rôle, et on joue à être père, mère.
Mais justement, pourquoi la plage? Vous le dites, aujourd'hui, 50% pratiquement des Français en été vont à la plage plutôt qu'ailleurs, à la montagne, ou à la campagne, ou dans des villes, ou dans de belles villes, pour faire du tourisme culturel. Pourquoi la plage?
Mais la plage, si vous voulez, on est tellement habitué à la plage qu'on voit plus qu'elle a d'extraordinaire. C'est comme un lieu unique en son genre. On me disait toujours, moi, bon, je comprends pas ces gens qui vont à la plage, qui s'entassent comme dans les villes, etc. À cette différence près que même si c'est la densité des villes, la plage, la ville sans les murs. C'est un monde de transparence où l'on est vu et où on regarde l'autre. C'est voir et être vu. Et on joue à être heureux ensemble. C'est un moment de pacification sociale extraordinaire, la plage, qui n'est comparable à aucun autre lieu. Donc c'est pas seulement la mer qui fait la plage, c'est ce territoire complètement vierge qu'on se partage tous les jours et où l'on réapprend finalement à vivre ensemble sans conflit.
Oui, mais justement, il est plus vierge. Le tourisme de masse avec les congés payés, etc., fait que, vous le rappelez, les plages sont bondées, les villes ou les villages plutôt décuplent leur population en été. Il y a la pollution. Hein, vous citez un auteur qui dit la Méditerranée est une sorte de WC sans chasse d'eau. Et en vous y baignant, vous avez une chance sur 6 d'y attraper une infection. Bon, vous me direz, il y a aussi la pollution des pétroliers. Il y a le bétonnage des villes. Et puis alors, il y a également, non seulement en France, mais à l'étranger, on voit apparaître des villages artificiels construits par un club si célèbre, d'ailleurs, qu'il a inspiré un des plus grands succès du cinéma français.
Bienvenue à Galaxinda, bienvenue à Galaxinda. Je m'appelle Marcus et je suis le chef de village. On se retrouve demain matin à partir de 7h pour le petit déjeuner.
La petite hôtesse, elle est maquée?
Ouais, elle est avec moi.
Et sa copine, la frisée?
Elle est maquée aussi avec moi.
Ah bon. Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec?
Ça dépend du mec, ça.
Ah oui, d'accord, oui.
Amitiens, bonsoir, bon appétit. Rendez-vous ce soir à l'amphithéâtre pour la super présentation Géo, les Géos de Galaswinda, suivi de la soirée Contact. Allez, s'il vous plaît, vous répétez très fort après moi. Contact.
Et c'était bien sûr Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Dominique Lavanant ou Gérard Jugnot dans Les Bronzés, une parodie du Club Med où l'on ne se rend plus sur une plage pour voir le paysage ou encore pour sa santé, pour s'y soigner, mais pour draguer, pour conclure, comme disait dans ce film Michel Blanc. Alors non seulement la plage a changé, mais en plus elle change de vocation avec le tourisme de masse. Jean-Didier Urbain.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la plage est un symptôme de société. Le fait que 25 à 30 millions d'individus se concentrent entre juillet et août sur 4% du territoire national, c'est quand même pas rien. Et qu'il se passe aussi peu de choses, finalement, dans cet espace. Si peu de conflits, si peu d'agressions, que ça interroge, quelque part. C'est parce que les gens sont là, effectivement, pour restaurer du lien social qu'ils n'ont pas le reste de l'année. La plage a une valeur thérapeutique. C'est un petit peu le divan du psychanalyste offert au plus grand nombre. Dans la mesure où on la réapprend à vivre ensemble, à se rencontrer. C'est un petit peu aussi, je dirais, à la société, ce que pouvait être le bal populaire à une époque, un espace privilégié de rencontre. La plage, c'est ça aussi, c'est croiser des regards, c'est montrer son corps, montrer qu'on a encore un corps montrable, montrer qu'on peut encore séduire, montrer que on a encore des muscles, qu'on sait nager, qu'on peut plaire. Donc c'est un théâtre de la séduction extrêmement important, puisque très... très positif, je dirais, pour le mental de chacun. Hein. On va à la plage vraiment pour se refaire une nouvelle jeunesse, justement, comme disait la chanson tout à l'heure.
Oui, mais dans le cas de ce club particulier, qui n'est que une première série de clubs de vacances, alors on ne sort absolument pas du village, on se dépayse, mais on ne regarde pas les gens du pays où on se trouve. Vous le dites, le tourisme est totalement décontextualisé.
Ah, absolument, c'est de l'hyper-villégiature, justement. Là, on n'est pas au village pour découvrir le monde. On ne va pas, quand on va au Club Méditerranée en Sicile, on ne va pas en Sicile, on va au Club Méditerranée. C'est-à-dire que c'est le coup de génie du Club Méditerranée, c'est-à-dire finalement dans les vacances, on ne cherche pas forcément de l'exotisme de l'ailleurs, on cherche du lien social, on cherche de l'entre-soi, on cherche du contact. C'est la soirée contact annoncée en l'occurrence. Et c'est ça qu'a au fond eu l'idée de mettre en marché, je dirais, le véritable concepteur du Club Méditerranée, qui était Gérard Blitz. Et quand même, au passage, il est intéressant de rappeler que Gérard Blitz était quand même ce diamantaire anversois que le gouvernement belge a chargé de la réinsertion des concentrationnaires belges au sortir de la guerre. Hein, et avec cette idée qu'il fallait leur réapprendre à vivre ensemble. Et Gérard Blitz a à cette occasion loué un hôtel en Savoie pour regrouper ses anciens concentrationnaires et leur apprendre à vivre ensemble. Et une fois, il a été dans un camp de vacances en Corse que dirigeait sa sœur, c'est en 1949, à Calvi. Et il a dit, mais finalement, c'est exactement ce que fait ma sœur, c'est exactement ce que j'ai fait moi avec les concentrationnaires. Il a déposé les statuts du Club Méditerranée, ils ont ouvert le premier village en 51 au Baléares. Et c'était ça, le coup de génie du Club Méditerranée, c'est-à-dire on vous vend pas de la destination, on vous vend du bonheur d'être ensemble, du lien social. Du mélange de sexe, de langue, de nationalité, etc. Ça a été ça. Donc effectivement décontextualisé, parce que le motif du voyage, c'était absolument pas de découvrir une région inconnue, c'était de redécouvrir les autres et de partager des joies ensemble.
Oui, il y avait en plus une espèce d'idéal social. Gilbert Trigano disait qu'au fond c'était un lieu où toutes les classes sociales pouvaient se mélanger. Ça a beaucoup évolué. Ce n'est plus le cas ni du Club Med ni des autres.
Non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au départ, l'idée du Club Med, on a même parlé de mini-socialisme concernant le Club Méditerranée. Ne pas oublier que Gilbert Trigano a été quand même membre du Parti communiste. Il y avait un idéal effectivement communautaire à l'origine de ça, avec qui plus est des gentils membres qui étaient des gentils membres pris dans une logique de participation à la vie collective, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, on n'a plus des vacanciers qui sont pris dans une logique de consommation participante. Ils sont pris plutôt dans une logique de consommation attentiste. Ils attendent qu'on leur propose des services, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Tandis que le Club Méditerranée, c'était les gentils membres qui le faisaient eux-mêmes. Hein, Il y avait un côté autogestionnaire, je dirais, dans Club Med, qui effectivement aujourd'hui a totalement disparu.
Oui, parce qu'il y a une espèce de ségrégation de fait qui se forme entre les différentes catégories de clubs, 2, 3 ou 4 étoiles, je ne sais pas s'il y a des étoiles pour ces clubs, mais on n'accepte pas l'indigène, c'est-à-dire l'habitant du pays où on se trouve, hein, sauf pour faire le service, bien entendu, ni même d'ailleurs certains, pendant un certain moment, il y a des clubs qui n'acceptaient que des nationaux d'un seul pays. Hein. Il y avait un club allemand qui n'acceptait que des Allemands, un club italien qui n'acceptait que des Italiens, enfin bref. Au fond, on va loin, à l'étranger, sur la plage, pas du tout pour retrouver les autres, mais c'est pour se retrouver soi-même.
En fait. Ah non, oui, absolument. Ça, c'est d'ailleurs aussi le propre de la villégiature, c'est le bonheur de l'entre-soi. Hein, c'est la fermeture à l'autre, je suis d'accord, mais c'est l'ouverture au sien aussi, parce que c'est le moment privilégié hein, pour restaurer des liens affectifs, amicaux, sociaux, qui le reste de l'année sont menacés dans la société urbaine dans laquelle on vit. Hein, c'est ne pas oublier d'ailleurs que le club méditerranéen, s'il a si bien marché, c'est parce que c'était au sortir de la guerre, en pleine période de reconstruction. Des gens qui ont vécu la peur d'une société disloquée et qui d'un seul coup ont envie de reconstruire cette société. Bon, bah, aujourd'hui, on est plus taraudé par ce même genre de peur, mais on a peur de d'autres dislocations, notamment la dislocation du groupe familial, du couple conjugal, etc., de la tribu familiale ou amicale, et on prend les vacances comme terrain privilégié pour reconstituer, sauver ces unités perdues.
Bref, on va dans les clubs ou les stations balnéaires pour y retrouver le monde d'où on vient. À ceci près qu'on est en maillot de bain, même si en 1964, à Cannes, une jeune femme en avait oublié la moitié.
L'affaire du Monokini rebondit. Les juges de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence semblent maintenant être favorables au Monokini. Ils ont relaxé hier soir une jeune femme qui s'était exhibée l'été dernier sur une plage de Cannes dans cette tenue ou dans cette absence de tenue comme vous préférez.
Dans ses attendus, la Cour d'appel d'Aix a tenu à faire savoir que le spectacle de la nudité du corps humain n'avait rien en soi qui puisse outrager la pudeur, à condition évidemment qu'il ne soit pas accompagné d'une attitude provocante et qu'il ne tourne pas à l'exhibitionnisme.
L'opinion maintenant sur ce problème d'un Marseillais célèbre, je n'ai pas besoin de vous dire ni son nom ni ses qualités, vous allez reconnaître sa voix et son accent.
De seins nus tous les soirs dans les balles, ou dans des réunions au bord de mer, empêcherait certainement les mâles, dont je fais partie, d'avoir ce désir que nous avons toujours eu, en se disant peut-être qu'elle est bien foutue.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, ici, 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 oui, ni tout petit, 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 qu'elle mettait pour la première fois. Elle ici, 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 oui.
Et c'était Dalida, ici, Bitsy, petit bikini, une tenue qui n'a plus grand-chose à voir, Jean-Didier Urbain, avec ce qu'on appelait naguère les costumes de bain. La mode a changé en un siècle de plage. Et ce sont les enfants, dites-vous, qui sont à l'origine de son évolution.
Oui, ça avait déjà été marqué par dans un petit livre remarquable de Cécile Saint-Laurent. C'était cette sorte de fonction, de prototype qu'avaient les enfants dans cette affaire de dénudation collective, dans la mesure où la nudité enfantine, ben, ma foi, elle est innocente, la nudité adulte, elle est toujours suspecte, et qu'effectivement, on a testé au fond, on a inventé le bikini, le maillot de bain court, le short, le court en général, par le biais des enfants. C'est-à-dire que les enfants ont été...
Les cobayes, en quelque sorte.
Oui, ont été les premiers à avoir le droit à venir en sous-vêtements, je dirais, dans un espace public. Hein. C'est les, comme disait Cécile Saint-Laurent, d'ailleurs, les sous-vêtements ont pris le dessus. Hein. C'est, ça a été ça. Ce qui fait que d'ailleurs, les hommes se baignaient dans leurs pyjamas, les femmes dans leurs chemises de nuit. Ça a été, je dirais, les étapes qui ont ensuite conduit au fait que les adultes ont adopté, effectivement, le costume des enfants. Donc, le slip...
Ça l'est dit, la nudité, elle est omniprésente. D'ailleurs, vous faites constamment la comparaison dans votre livre entre Robinson Crusoe et le villégiateur de plage d'aujourd'hui. C'est vraiment une partie de ce rituel qu'on va chercher à la plage. Vous parlez même d'ailleurs d'une espèce de religion de la plage. Et c'est l'écrivain américain Fitzgerald qui disait au fond que la plage est un tapis de prière.
Mais oui, c'est vrai, c'est que la plage est quand même un lieu extrêmement ritualisé, où tout est très codé. A priori, on pourrait croire que tout est... est abattu parce que effectivement les vêtements sont tombés, mais non, il y a des règles extrêmement précises qui règlent la sociabilité de plage. L'installation sur la plage est un rituel compliqué, avec le parasol qu'on installe, on instaure un centre, c'est le père de famille qui le plante, tel un conquérant de nouveau monde, et à partir de là on se délimite un territoire à coups de rabanne, à coups d'ombre portée, à coups de glacière, à coups de palmes, de seaux, de ballons, etc. Tout ça est extrêmement ritualisé, on s'installe même d'une façon extrêmement intéressante, je veux dire que les familles qui s'installent sur la plage s'installent face à la mer, dans une position comme si elles regardaient la télévision. Alors que les jeunes adolescents s'installent sur la plage en étoile. Eux, ils ne regardent pas la télévision, ils se regardent entre eux.
Est-ce que ça va durer longtemps, Jean-Didier Urbain? Parce qu'au fond, la plage, comme lieu de vacances, n'a pratiquement qu'un siècle. Est-ce que dans un siècle, on ira à la plage aussi nombreux qu'aujourd'hui?
Écoutez, je pense que depuis le temps qu'on annonce que la plage est démodée, tous les faits vont dans le sens contraire. Simplement, la plage s'internationalise, se mondialise. Donc, on voit que des destinations touristiques émergentes, qu'on pourrait croire a priori attirantes pour leur exotisme, sont d'abord et surtout des lieux de villégiature. Que ce soit la Crète, que ce soit le Vietnam, que ce soit le Mexique, on va aussi là-bas et si loin pour se baigner. Donc, je crois que la plage, maintenant, c'est beaucoup plus qu'une réalité géographique. C'est un concept, un produit marketing, on pourrait dire, où se rejoue partout, décontextualiser toujours les mêmes scènes. La scène de l'entre-soi, de la nudité, du bien-être ensemble.
Merci Jean-Didier Urbain. Mais écoutez, qu'on soit à la plage, à la montagne ou à la campagne, je recommande la lecture de vos livres, Les Vacances, publié au Cavalier Bleu dans la collection Idées Reçues, Sur la plage, republié en poche chez Payot, et que vraiment je recommande la lecture, il m'a beaucoup servi pour cette émission. Et puis dernièrement, vous avez écrit toujours chez Payot, Paradis Vert, Désir de campagne et Passion résidentielle. Vous avez pu entendre des extraits des films suivant, Le gendarme se marie, bien sûr, Les Bronzés, et puis également une archive papier de 1936, extraite du journal de votre année, édité par Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Mathias Saléon et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.